Donc, bienvenue à tous. Et juste aujourd'hui, vous parlez d'un texte qui est un texte assez difficile. Je crains un peu enseigner ce passage parce que nous sommes dans le Sermon sur la montagne et c'est Jésus qui parle à ce moment-ci des trésors que nous pouvons avoir, les trésors que nous pouvons avoir. Je vais juste commencer avec la lecture. Donc, on sera dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21 pour commencer. Donc, chapter 6, verses 19 through 21 pour commencer. Voici ce que Jésus dit et vous allez tout de suite savoir pourquoi on peut avoir un peu d'inquiétude en face de cela. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez que c'est difficile de payer l'hypothèque pour la maison, ou si vous avez de la peine à trouver ce qui est nécessaire pour payer votre loyer, ce texte nous dit que Dieu prend soin de nous. Quand on est au chômage, comme certains parmi nous, quand on est au chômage et on ne sait pas si on va retrouver un autre travail avant la retraite, la réponse est Dieu prend soin de nous. Quand nous sommes dans une crise économique, à un moment où les gens peinent à pouvoir trouver l'argent ou le travail pour acheter le minimum, ce texte nous enseigne que Dieu pense à nous et nous lui sommes importants. Il prend soin de nous. Et Jésus commence donc ce texte, cette partie, en disant « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel. » Stéphanie et moi, jeunes mariés, nous étions en Californie à ce moment-là. On avait très, très peu de choses, mais on avait quand même de belles choses. Et après une année, on est parti pour une semaine de vacances. Et quand moi, je suis revenu à la maison 2 ou 3 jours avant Stéphanie, qui est restée avec des amis, et j'entre dans la maison, et qu'est-ce que je trouve? Donc, toutes les portes ouvertes, tous les tiroirs vidés, toutes nos affaires par terre et tout ce qui avait une certaine valeur volé. Même les bottes en cuir, les manteaux, les vestes en cuir, même les draps des lits, toutes les valises, stéréo, cassettes. À l'époque, on avait des cassettes à l'époque. Toutes ces différentes choses, loin. Et étant jeune marié et peut-être n'ayant pas une bonne idée de comment était la vie, on n'avait pas non plus d'assurance au niveau ménage. Et quand nous avons donc parlé avec nos amis à l'église en disant « Ah, on a été cambriolé et on a perdu presque tout ce qu'on avait », il y en a, avec une grande générosité et compassion du cœur, qui ont dit « N'amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Bon, là, on le savait, évidemment, que c'était le cas. On doit avoir notre espérance en autre chose. Et de penser que perdre notre chose peut détruire notre vie est une tristesse qui existe pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais Jésus est quelqu'un qui nous dit que la vie ne consiste pas en ce que nous possédons. La vie consiste en autre chose. C'est vrai que on aimerait beaucoup plus perdre un objet qui nous est cher qu'une personne qui nous est chère. Que les relations, je crois, pour la plupart d'entre nous, comptent beaucoup plus que les biens matériels. Et au-dessus de toute chose, ce que Jésus va enseigner, c'est qu'une relation avec Dieu vaut plus que toute autre chose qu'on puisse avoir. Que le trésor du ciel est un trésor qui est beaucoup plus important de toute autre chose. Et notons bien, un trésor terrestre est assez difficile à protéger. Il y a le problème de vers ou de la rouille qui détruisent. Il y a des voleurs. Et avec les années, c'est aussi l'oubli. On risque aussi d'oublier pas mal de choses. Ça peut être quelque chose dans le train, ça peut être quelque chose dans le bus, etc. Et quand on est trop attaché à ces choses, nous pouvons les perdre. Aujourd'hui, heureusement, certaines choses nous ne pouvons pas perdre. Nous avons le cloud aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc nos documents, on va les sauvegarder pour l'éternité. Mais on peut imaginer à travers une chose ou une autre, une guerre ou différentes difficultés, que nous pouvons même perdre des choses, des informations qui nous sont importantes, qui nous sont importantes. Vous savez que les caractéristiques des trésors de la terre, c'est qu'ils ne restent pas pour toujours, on ne peut pas avoir confiance de les retrouver. Par contre, quand on parle d'un trésor céleste, c'est pas nécessairement l'idée de seulement aller au ciel, mais d'être protégé de tout ce qui est terrestre. C'est-à-dire, c'est indestructible. C'est grâce au banquier qui garde ce trésor, c'est-à-dire Dieu, que nous n'allons pas le perdre. Et vous savez que vous pouvez avoir un banque en Suisse et vous avez une certaine assurance que vous allez retrouver ce que vous avez mis dedans. Mais nous pouvons être sûrs que le banquier qui est Dieu, il garde tout ce que nous faisons, il garde ce trésor près de lui et tout ce qu'on lui a versé se trouve dans notre compte jusqu'à l'éternité. À tel point que toutes ces différentes idées de Dieu qui garde un trésor pour nous, que Dieu y garde, si le royaume de Dieu est notre trésor, et si nous le cherchons de tout notre cœur, qu'il va le garder avec lui et rien peut le toucher. À tel point cela est important que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, dit ceci. Et juste écoutez ce qu'il dit au début de sa lettre. 1 Pierre chapitre 1, les versets 1 à 4. Il dit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Mais ce qu'il dit ici, c'est que celui qui met sa confiance en Dieu a un trésor qui ne va pas disparaître. Car c'est Dieu le banquier, c'est lui qui le garde, c'est l'Éternel qui prend soin de cela. À tel point que Jésus va dire, ayons des trésors dans le ciel, parce que là où est votre trésor, là il y a quoi? Notre cœur. Là où est notre trésor, là est notre cœur. Et donc, la question que je peux poser, c'est assez simple. Si vous aviez le choix entre tout ce qui est bon et terrestre, entre tout ce qui est bon et terrestre et tout ce qui est bon et céleste, vous choisirez lequel des deux? Bon, je crois que c'est évident. Nous choisissons Dieu, nous choisissons l'éternité, nous choisissons ce qu'il peut offrir. La Bible va parler des choses comme qui durent longtemps, comme la foi, l'espérance et l'amour. Et de choisir les choses au-dessus de l'amour, de choisir les choses au-dessus de la foi, de choisir l'argent au-dessus de l'espérance, ça n'a pas de sens. Nous savons qu'il y a quelque chose d'autre. Et Jésus dit que Dieu nous offre cela. Jésus va continuer dans notre texte, donc dans Matthieu chapitre 6, les versets 22, donc, et 23, donc, Matthieu 6, verse 22 and 23. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Vous voyez que Jésus dit qu'il y a deux trésors. Il y a un trésor céleste, il y a un trésor terrestre. Et on peut choisir entre les deux. Il y a l'un qui est éternel, qui peut résister à toute chose, et l'autre qui peut disparaître. Et vous savez aussi, il dit, il y a une manière de voir ce monde, une manière de ténèbres, les yeux qui voient que les ténèbres, et les yeux qui voient la lumière. Et sur quoi fixons nos yeux? Si nous fixons nos yeux, je dis sur l'amour, la foi et l'espérance de Dieu, notre manière de traiter les autres sera comme des alliés, des gens que nous pouvons aimer, des gens qui peuvent être nos amis, des gens avec lesquels nous pouvons partager les choses. Si nous regardons les autres comme des gens qui veulent saisir et prendre ce que nous avons, nos choses matérielles, notre argent, qui vont déranger notre paix, à ce moment-là, nous allons voir les choses dans les ténèbres, dit Jésus. Votre manière de voir Dieu va influencer votre manière de voir les autres. Et votre manière de voir ce monde va influencer votre manière de traiter les autres. Fixer nos yeux sur l'accumulation des biens, cela ne finira jamais. Fixer nos yeux sur l'aide que nous pouvons apporter aux autres, nous avons une bonne manière d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Fixer les yeux sur Christ et de savoir que nous pouvons être avec lui, ceci va nous donner une satisfaction de donner aux autres, de vivre avec les autres et de chercher ce qui est éternel. Et donc, on a cette relation. Le chrétien, quand il reçoit, que fait-il? Il partage. Bien sûr, il pense à sa retraite, bien sûr, il pense à payer ses factures, bien sûr, il pense à ses voyages. Mais dans toutes ces choses qu'il fait, que fait le chrétien? Il dit, comment est-ce que je peux servir les autres avec ce que j'ai? Le temps que j'ai, les choses que j'ai, l'argent que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour partager avec les autres? Et donc, nous apprenons que depuis le début, quand les gens ont fixé leurs yeux sur le royaume des cieux, ils ont commencé à aider ceux qui étaient dans le besoin. Ils ont ouvert leur maison pour accueillir des gens. Ils ont partagé donc avec les autres et entré dans les relations profondes. Et donc, avoir cette attitude, d'avoir cette attitude qui nous donne la possibilité de voir les choses dans la lumière, c'est ce que Jésus voit. Et puis après, au verset 24, il dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Servir l'argent, servir Dieu. On ne peut pas servir les autres. Jésus est très catégorique là. Moi, je dirais, oui, on peut servir juste un peu l'argent et beaucoup Dieu, peut-être. Mais Jésus dit, non, on ne peut pas servir les deux. Donc, première chose que j'ai fait en étant licencié pour des raisons économiques, c'est que j'ai fait le constat de tous mes comptes en banque avec tous mes investissements, avec combien de temps j'allais recevoir mes allocations ou mes indemnités de chômage. Et j'ai commencé à faire le tableau Excel avec mon budget, où est-ce que je pouvais couper, etc., toutes ces différentes choses. Et donc, j'ai fait vraiment, et je l'ai toujours, un super joli tableau Excel qui parle de mon avenir et de l'avenir de Stéphanie. Et puis donc, j'ai mis toutes ces choses en place. Et à un moment donné, je voulais voir jusqu'à où pourrait aller l'argent pour la retraite, si jamais je trouvais pas un autre travail avant la retraite. Bon, c'est assez difficile parce que la question c'est que, bon, je vais vivre jusqu'à quand? Donc, combien d'argent me faudra-t-il? Est-ce que je vais vivre jusqu'à 99 ans? Est-ce que je vais vivre jusqu'à 85? Est-ce que je vais vivre jusqu'à 75? Combien d'argent faudra-t-il pour ma retraite? Vous savez quoi? Il n'y a pas de réponse. Combien d'argent faudra-t-il pour ma retraite? Je peux pas vous le dire. Je sais pas combien d'années je vais vivre et je ne sais pas combien d'argent il me faudra pour l'avenir. Malgré mon joli tableau Excel qui me rassure, Jésus dit que la vie est plus que cela. Et donc, je me trouve dans une situation de difficulté. Je dois prévoir mon avenir, c'est certain, mais je ne peux pas permettre à l'accumulation des richesses de guider mes pas. Je ne peux pas faire cela. Si je fais cela, donc je fais comme des gens qui ne connaissent Dieu du tout, dit Jésus par la suite. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous savez que nous avons été achetés par Dieu. La Bible dit rachetés. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur qui appartient à Dieu. Et nous appartenons à Dieu à tel point qu'à la fin de notre vie, Dieu ne regardera pas notre compte en banque, ce qui reste. Ce qu'il regardera, c'est que nous, comment nous avons vécu notre vie. Vous comprenez? Il va poser la question, la question qui se posera, c'est comment avons-nous vécu notre vie? Pas combien d'argent avons-nous ramassé? On risque d'entendre ceci, et cela m'encourage. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est un encouragement. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. C'est ça qu'a dit l'apôtre Paul, je crois, en réfléchissant aux paroles de Jésus. Donc, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais voir? Comment est-ce que je peux vivre avec confiance? Alors maintenant, Jésus entre dans un discours pour nous réconforter, mais aussi nous donner des challenges. Et là, vous allez entendre cette phrase, « Chaque jour suffit sa peine. » Chaque jour suffit sa peine. Nous lisons, donc Matthieu 6, le verset 25. Matthieu 6, 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par les inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? » Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait qui vous en avez besoin. Et donc, on apprend ici qu'il y a un royaume qui est fait de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire et ce que nous portons. Et il y a un autre royaume qui est le royaume des cieux, qui est rempli de la volonté de Dieu et de l'amour que nous exprimons les uns pour les autres. Alors, la première chose que j'ai fait après avoir fait mon tableau Excel, c'était que j'ai repris le sermon sur la montagne et j'ai commencé à relire ces textes. Et je vous promets que pendant toute une semaine, j'ai relu ces différentes choses. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un père qui sait de quoi j'ai besoin. La difficulté, bien sûr, ce sont les doutes qu'on peut avoir. Est-ce que je trouverai un autre travail? Est-ce que je pourrais garder la maison? Est-ce que je pourrais aller en avant dans les différentes choses? Est-ce que je crois que vraiment Dieu prend soin de moi? Et Jésus dit ici que lui, votre Père Céleste, sait de quoi vous avez besoin. Est-ce qu'il est en train juste de parler des théories ou est-ce qu'il dit on peut vraiment baser une vie là-dessus? Que nous pouvons aller travailler, gagner de l'argent et économiser et faire toutes ces choses, mais avoir une vie qui dit Dieu sait de quoi nous avons besoin et il prendra soin de nous. Alors moi je crois qu'en grandissant avec la confiance en Dieu, que nous arrivons à avoir cette paix, que la vie est plus de ce que nous mangeons, plus de que où nous vivons et plus que ce que nous possédons. Que ces choses sont en réalité un substitut piètre pour la vraie vie. Que la vraie vie est basée sur les relations. Une relation avec Dieu à travers Jésus et la relation que nous avons avec ceux qui nous ont autour. Je suis désolé, mais Jésus, quand je lisais cela, Jésus me disait dans mes doutes, je voulais peut-être un peu plus de consolation, mais le verset 30, il dit « homme de peu de foi ». J'aurais un peu mieux aimé « pauvre Brady, t'as perdu ton boulot ». J'aurais peut-être aimé plus cela. Mais il dit que si nous nous concentrons seulement sur ce que nous avons, nous possédons physiquement, donc nous sommes des hommes de peu de foi. Nous avons déjà vu dans la prière que nous prions notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Donne-nous notre pain de ce jour. Et en sachant que Dieu est celui qui prend soin de nous, alors nous pouvons donc vivre avec certitude. Et quelles sont ces certitudes? Bon, ces certitudes, c'est que d'abord, faire des soucis ne va pas garantir une vie plus longue. Bon, quand même, à 3h le matin, vous vous réveillez, vous pensez à ces choses, ces soucis. Ce n'est pas une mauvaise chose de penser à ce que Jésus a écrit. Que nous n'aurons pas une vie plus longue et que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Et vous savez que il dit que nous ne pouvons pas changer même la couleur de nos cheveux. Non, c'est pas ça qu'il dit, mais il parle quand même qu'on peut pas changer les cheveux, le nombre de cheveux sur notre tête. On peut faire tellement de choses pour influencer, mais ce que nous pouvons faire, c'est grandir dans la confiance en Dieu. Les païens cherchent une consolation dans l'accumulation de leurs biens, mais nous cherchons ce qu'il faut dans une relation avec le Père Céleste. Vous savez, si je termine ma vie dans une relation profonde avec Dieu et avec mes frères et sœurs, je crois que c'est une vie réussie. Je crois que c'est une vie réussie. Je lisais l'autre jour, ça m'a fait rire, mais l'un des hommes les plus riches dans le monde, c'est Bill Gates, hein, et sa femme s'appelle Melinda Gates. Hein, et il semble qu'ils sont des gens très, très généreux au niveau des choses qu'ils font, à tel point qu'ils ont décidé seulement de laisser 10 millions de dollars à chacun de leurs enfants comme héritage, seulement 10 millions. Ça vous va, 10 millions, vous croyez? Et une des habitudes qu'ils ont, pas vraiment?
Pas 10 millions.
Pas 10 millions, ok. Ben, si jamais on peut le donner à d'autres, ok. Mais une des choses que nous apprenons, qu'elle a, dans un entretien, elle a dit que ce n'est pas facile d'être mariée à Bill. Parce qu'il passait beaucoup de temps d'abord à travailler, que travailler. Et donc, il y avait il a négligé la famille. Et c'est seulement à travers des prises de conscience qu'il s'est dit, je dois m'investir dans ma famille. Et vous savez ce que Bill et Melinda Gates font avec leurs deux enfants, je crois que c'est deux filles, chaque nuit avant de manger, le soir à table. Chacun doit dire quelque chose pour lequel ils sont reconnaissants. Et je trouve que c'est pas mal de dire. Et même quand les petits amis viennent, les filles, et quand eux ils viennent, ils sont aussi obligés de le faire. Et ils le faisant en tenant la main. Et chacun doit dire. Donc vous pouvez imaginer tenir la main de Bill Gates. Vous êtes en train de sortir avec sa fille. C'est la première fois que vous faites la connaissance et vous devez dire de quoi. Quoi, vous êtes reconnaissant d'avoir la bonne réponse, ça serait pas très très facile. Mais ce que je veux dire avec cela, c'est que nous savons que dans cette vie que nous avons, la vie n'est pas manger, c'est pas boire, c'est pas l'accumulation, c'est de vivre une vie avec Dieu et de vivre une vie avec les autres avec reconnaissance. Si on peut apprendre cela, nous pouvons trouver le vrai contentement. Et donc Jésus finit avec « chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et tout cela vous sera donné par-dessus. Bon, comment être sûr que c'est le cas? Comment être sûr que c'est le cas qu'en cherchant le royaume de Dieu, les autres choses vont retrouver leur place? Parce que nous avons le Dieu, le Père de Jésus, qui a tout fait pour que nous soyons avec lui toujours. Il nous a montré comment vivre. Et en faisant cela, nous pouvons vivre avec confiance que oui, il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu qui prend soin de nous. Alors, c'est pas de faire notre checklist avec Dieu et puis dire, OK, piscine, deux salles de bain, etc., etc. C'est pas ça. Mais c'est de dire, Dieu, ce qui me contente, c'est d'être avec toi. Ce que je cherche, c'est toi et ton royaume. Ce que je cherche est une relation avec toi. Et puis le reste, je sais que tu prendras soin de toutes ces choses. Alors, Je veux quand même revenir en arrière. Plus tard, il y a des gens qui disent, ils deviennent chrétiens, ils habitent à Thessalonique, peut-être vous êtes au courant, et eux, ils décident quelque part, de quelque manière, ils sentent qu'ils décident que Jésus va revenir bientôt, mais très très bientôt. Donc ils disent, pourquoi travailler si Jésus va devenir... Et donc ils commencent à profiter un peu de l'hospitalité des frères et des sœurs qui travaillent pour vivre. Et donc, ils profitent de la situation. Et si je me souviens bien, Paul écrit à ces gens-là et il dit, si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. D'accord? Donc, évidemment, une des manières que Dieu prend soin de nous, c'est à travers le travail de notre main pour gagner notre pain quotidien. Jésus n'est pas en train de dire, soyez paresseux. Moi, je crois quand même, il est en train de dire, travaillez comme il faut, pour pouvoir partager avec les autres, ne mettez pas votre confiance dans les choses de ce monde. Et donc, le verset 34, j'adore cela parce que je vous dirai pourquoi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Comme je vous ai dit une fois, quand j'ai faisais les entretiens dans les assessments et pour les gens qui allait être donc engagé. La dernière question que je pose, c'est toujours, et quelle est votre philosophie de vie? Ah, c'est une très belle question à poser pendant un entretien d'embauche. Quelle est votre philosophie de vie? La plupart vont dire, c'est une très, très, très bonne question. C'est une bonne question. Et on a une personne sur 20, plus ou moins, qui dit, chaque jour suffit sa peine. Et je le pose la question, pourquoi, avec des milliers de philosophies de vie dans le monde, vous avez choisi celui-là. Et il donne plein de différentes raisons. Mais vous savez pourquoi nous donnons cela, cette réponse-là? C'est parce que Jésus lui-même nous l'a donné. Chaque jour suffit sa peine. Je vais me concentrer sur ma relation avec Dieu aujourd'hui et sur les gens qui m'entourent aujourd'hui. Je vais agir en sorte que je suis plus proche de Dieu à la fin de la journée, être plus proche des autres autour de moi. Je vais être sûr que j'ai entendu l'appel des gens autour de moi, de l'aide, que je suis là pour eux. Et vous savez, si nous faisons comme cela, je crois que nous sommes en train de préparer un trésor qui durera pour l'éternité. Si je peux vivre dans le présent, en améliorant cette relation avec Dieu et en aimant les gens autour de moi, je crois que vraiment, chaque jour suffit sa peine. Et donc, normalement, je révèle aux gens, « Eh, vous savez qui a dit cela le premier ? Que chaque jour suffit sa peine ?» Et je dis, « C'est Jésus. » Et ils disent, d'habitude, qu'ils ne le croient pas. « Oh, vraiment ? Jésus a dit cela ?» Je dis, « Bon, il n'a pas dit en français, mais il a dit en araméen. Okay. » Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons sa justice. Et toutes les autres choses que nous cherchons nous seront données par-dessus d'autres choses. Si vous avez soif de Dieu, alors vous avez soif d'une bonne chose. Si vous avez soif de l'argent, je peux vous dire, vous serez jamais rassasié, jamais. Si vous avez soif de Dieu, vous serez jamais rassasié dans cette vie-ci. Mais un jour, vous allez le reconnaître, vous allez le voir, et vous serez rassasié totalement. Et ça, c'est la promesse que nous avons. Donc, merci pour votre patience et au boulot.